Alors j'aimerais ce matin dépoussiérer, décaper, nettoyer, pour lui redonner son sens, un mot qui est beaucoup dans la parole de Dieu, mais qui a perdu énormément son sens, on l'a vraiment dénaturé, c'est le mot « compassion ». Déjà, c'est plus un mot qu'on utilise beaucoup, et quand on l'utilise, c'est comme ces vieux trucs qu'on sort du grenier, ça sent la poussière, hein, l'antimite, et puis c'est pas réjouissant. Et j'ai été surpris d'entendre ce mot dans la bouche, sur un plateau télé, à un endroit où je m'y attendais pas. C'était l'écrivain Jean Dormesson, et puis c'était une soirée où tout le monde détruisait les autres avec tous les scandales qu'il y avait, etc. Et tout le monde en profitait pour en rajouter. Et au bout d'un moment, il prend la parole et puis il dit, au-delà de la vérité, de la justice, de ces choses-là, qui doivent faire suivre leur cours, il y a un mot qu'on a oublié de nos jours, qui est pourtant tellement important, c'est la compassion. J'étais surpris d'entendre ça. Et puis il disait, parce que la compassion, elle n'est pas intéressée de savoir si quelqu'un est coupable ou non, s'il a tort ou s'il a raison, elle amène de la douceur là où il n'y en a pas. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant, sur le plateau télévisé français assez tard. Alors, j'ai refait un petit peu un survol de ce mot dans la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, il y a deux ou trois mots qui sont utilisés, qui sont traduits, parce que souvent on a compassion, miséricorde, grâce, etc. Selon les traductions, ils interchangent, hein. Et en fait, en hébreu, il y a trois mots différents. Mais celui qui revient le plus souvent et qui est attribué à Dieu, c'est intéressant parce que c'est un mot féminin. Pourquoi féminin? Parce qu'il parle d'une caractéristique maternelle, féminine. En fait, c'est tout simplement le mot qui parlait des organes féminins intérieurs, les entrailles, la matrice, comme on disait avant, hein, quand on n'osait pas appeler les organes par leur nom. Et puis, c'est ce mot-là qui est utilisé pour parler de la miséricorde de Dieu. Je vous lis juste deux versets, hein, que vous connaissez bien. Lamentations 3:22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Le mot « compassion » ici, c'est ce mot-là. Deuxième qui est connu, le psaume 119-156, tes compassions sont grandes, ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Tes compassions sont grandes. C'est ce mot-là. Et puis il se trouve plus de 50 fois dans l'Ancien Testament, et puis il y en a d'autres qui lui sont synonymes. Pour les Hébreux comme pour les Grecs, le siège de ce qu'on ressent, des émotions, de l'amour, etc., c'était pas le cœur comme nous on dit, c'était les entrailles, les viscères. Le cœur faisant partie de ces viscères-là. Hein. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on retrouve ça. Alors Jésus utilise très souvent ce mot-là, ou plutôt quand on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, je crois que c'est 44 fois, ça y est. Quand il est dit dans les traductions second à l'époque, c'était « Jésus fut ému de compassion ». Darby avait une traduction encore plus littérale qui parlait justement des viscères. Hein. Et là aussi, c'est un mot qui veut dire être remué dans ses entrailles. En langage courant, on dirait avoir les tripes à l'envers. Mais pourquoi? Effectivement, quand vous avez un choc, une émotion, quelque chose de fort qui vous arrive, à moins d'être cardiaque, c'est pas vraiment votre cœur qui réagit, au niveau physique je parle, hein, c'est l'estomac. Ça fait des nœuds. Ça va comme on veut pas. Et c'est pour ça que pour les Hébreux comme pour les Grecs, les entrailles, c'était le siège des émotions, de la compassion, de l'amour. Et on voit comment à plusieurs reprises il est dit que le Seigneur l'ayant vu, par exemple dans Luc 7:13, ça parle d'une dame qui était veuve et qui avait perdu son fils, donc déjà elle était veuve, en plus elle perd son fils unique, et le convoi funéraire passe, et cette dame pleure, et il est dit, Jésus l'ayant vu fut ému de compassion. Et il lui dit, ne pleure pas. Donc littéralement, retourner dans ses entrailles. Jésus l'ayant vu. Et je crois que c'est la première chose qui est importante dans ce que on va voir ensemble ce matin, c'est que la compassion, elle vient quand on voit. Quand je dis voir, c'est voir, entendre, rencontrer, connaître. Si je vois pas, si j'entends pas, si je sais pas, si je regarde pas, si je veux pas voir, si je veux pas rencontrer, forcément, j'aurai pas de compassion. Pour nous, en tant qu'être humain, pour Dieu c'est différent, mais pour nous, être humain, personne se lève le matin le cœur rempli de compassion pour l'humanité. Ça n'existe pas. même Mère Teresa n'était pas comme ça, et personne ne l'est, et personne ne le saura jamais. Quand je me lève le matin et que je me réveille, il y a une seule personne qui m'intéresse et pour qui j'ai de la compassion, c'est moi. Après, éventuellement, selon comment ça va, mon conjoint et puis mes enfants, mais le monde entier, pas du tout, mes frères et sœurs, rien à faire. C'est pas naturel chez personne, et c'est comme ça chez tous les êtres humains. Mais ce que ce passage déjà nous révèle, c'est que c'est lorsque, pour Jésus c'est différent, mais dans son humanité, lorsqu'il a vu, ses entrailles se sont serrées, il a été ému de compassion. D'où l'importance de s'exposer. Nous vivons à une époque, et là je parle pas que de la Suisse, hein, c'est pareil dans tout l'Ouest, tout ce qu'on appelle l'Occident, on est tous très individuels, et en même temps on se protège énormément. On veut pas voir, on veut pas savoir, même si, bon, c'est vrai, quand on allume la télé, il y a des informations terribles, mais la façon dont elles défilent et dont elles s'enchaînent d'une aux autres, on est vaccinés, ça nous touche plus, hein. 250 enfants ont été brûlés, voilà. Et alors le match de foot, et puis ça enchaîne sur autre chose, ça passe. Mais quand on prend le temps, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on ouvre nos protections et qu'on voit, qu'on rencontre, on prend le risque d'être ému de compassion. J'ai reçu quelques mails d'Émilie qui me racontait ce qu'elle vit là-bas dans les quartiers pauvres au Brésil. Elle a eu les tripes retournées. C'était pas juste, j'ai lu un livre sur les pauvres, c'est intéressant, il y a des gens pauvres sur la planète, il y en a tant. C'est bien de savoir ça. Et là, elle a marché dans leur rue, elle les a rencontrés, et elle a été émue de compassion. C'est une des raisons, c'est ni la seule, ni la première, puisque Christ est venu d'abord pour donner sa vie pour nous, hein. Mais c'est une des raisons très importantes pour lesquelles Dieu s'est incarné en Jésus. Parce que Dieu connaît la misère de l'être humain, il sait tout, du début à la fin. Mais Jésus est venu en tant qu'homme, et Dieu qui est esprit n'a pas les tripes retournées littéralement, mais Jésus, oui, les a eues. Et dans l'Épître aux Hébreux, on a ce verset qui nous dit, Hébreux 4:15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ça parle de Jésus, hein. Il peut compatir avec nous parce que il sait ce que c'est. Il a été atteint, il a été touché, il a été retourné. Et pourquoi je disais que cet exemple de la chatte qui a accueilli ce petit qui n'était pas le sien était vraiment un superbe exemple? Parce que comme je l'ai dit, en tout cas dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, c'est un mot qui parle de sentiment maternel. Et d'ailleurs souvent Jésus lui-même quand il dit « Israël, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses petits sous son aile ?» Souvent on entend beaucoup dire de nos jours que le christianisme est une religion macho, il n'y en a que pour les hommes, c'est pas. Ça c'est effectivement ce que les hommes en ont fait. Dieu n'est pas homme ou femme, il est esprit, il a des caractéristiques masculines et féminines, paternelles et maternelles. Et ce côté-là, la compassion, la tendresse, c'est le côté maternel de Dieu. Qui est ému et qui ne s'occupe pas d'essayer de régler les problèmes de toute la vie. J'ai pensé en fait à ce sujet il y a un peu plus d'une semaine parce que je me suis retrouvé dans une situation assez habituelle pour moi où j'avais commis une erreur. J'avais rien fait de mal, mais j'avais pas fait ce que j'aurais dû faire. J'avais oublié quelque chose. Et on était à table avec des amis de l'église et j'ai été frappé parce qu'au moment où d'un coup j'ai oublié complètement ça. Et les gens qui étaient en face de moi à table, sans une seconde d'hésitation, on commençait à chercher avec moi des solutions pour résoudre le problème. On n'a pas passé pendant 5 minutes. T'as encore oublié. Eh ben, quand même, tu oublies tout le temps, mais tu n'as pas un agenda pourtant. Est-ce que tu pourrais pas? Je sais pas. Alors, mets-le sur ton téléphone. Je sais pas. Engage une secrétaire. Non. Immédiatement, leur réponse était, bon, alors attends. Bon, on n'a pas ça, mais on a ça. On pourrait faire, bon, tu t'occupes de ça, je m'occupe de ça. 5 minutes après, l'histoire était réglée. Et j'étais vraiment encouragé, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, ça m'a ému. Pas dans le sens où c'est pas grave, la prochaine fois je vais oublier. Non, j'avais pas fait exprès d'oublier. Bien sûr, c'est pas une excuse non plus, hein. Mais le point était pas là, c'est que je me suis dit, C'est extraordinaire quand des gens agissent comme ça. Au lieu de chercher pourquoi, comment, de juger, puis après d'apporter, hein, voilà ce qu'il faut faire pour expier, il faut que tu te sentes mal pendant un certain temps, et puis maintenant, de toute façon, débrouille-toi, hein, parce qu'après tout, c'est toi qui as oublié, enfin, je le dis encore en langage poli, mais ça nous regarde pas. Non, c'était évident pour eux que la question n'était pas là, puisqu'on en était arrivé là, il fallait juste trouver une solution, et qu'est-ce que eux pouvaient faire pour que ça aille mieux. Ça, c'est vraiment la compassion, hein. Parce que, comme je l'ai dit, la compassion s'occupe pas du jugement. Elle s'occupe pas de discuter. Oui, mais alors pourquoi on en est arrivé? Ah, je vous l'avais bien dit, hein. Je savais que ça arriverait, hein. Eh ben, maintenant, assume, hein. Débrouille-toi, etc., etc. On connaît ce discours-là, hein. Et peut-être que dans un domaine professionnel, il faut que ça existe. Mais là, je parle de relations d'êtres humains dont aucun d'entre nous est parfait. Nos faiblesses sont pas dans les mêmes domaines. Certaines se voient plus que d'autres. Certaines ont l'air plus grosses que d'autres. Cet animal, le chat de la famille Liguerre, chat de sexe féminin, le bébé est arrivé, elle a pas demandé des formulaires à amis pour savoir si pourquoi la maman avait disparu en 3 exemplaires, si éventuellement ils étaient compatibles, si... Oui, mais je savais bien, cette autre chatte, elle est toujours à tourner autour des chats, elle est partie rôder, c'est pour ça que son petit a pas à manger. Eh ben, c'est du propre, c'est du joli. Non! Elle pouvait faire quelque chose, elle a eu de la compassion, elle l'a fait. Des fois, on devrait être plus comme certains animaux, en tout cas. Pas tout le temps, hein. Avoir de la compassion. Être quelqu'un qui facilite parce qu'on cherche des solutions. On a un exemple magnifique, le mot est utilisé d'ailleurs, hein, dans la parabole du fils prodigue, ce fameux fils terrible qui mange la moitié de l'héritage de son père en faisant dans la débauche. Qui finalement, quand il a plus rien, ben, il se repent. Ben ouais, c'est facile de se repentir quand on a fait, hein. Quand on a plus rien. Il l'a pas fait avant, hein. Il a attendu d'avoir les poches vraiment vides. Donc on sait même pas quelle valeur elle a, sa repentance. Parce qu'encore, s'il était revenu quand il restait la moitié de l'héritage, on aurait pu se dire, il a compris quelque chose, il ramène un petit reste. Non, tant qu'il pouvait vivre sans son père, tant qu'il pouvait s'amuser et dépenser l'argent qu'il avait pas gagné, il l'a fait. Puis quand il avait même plus à manger ce qu'on donne à manger aux cochons, qu'il n'y avait pas d'autre choix, il s'est repenti. Ouais, hein, enfin, bon. Et il arrive vers son père, en se disant, bon, ben, effectivement, je risque de pas être très bien accueilli, hein. Alors, ben, je vais dire, écoute, papa, ouais, je sais que, bon, dans la maison, c'est pas la peine, ni dans le garage, parce qu'il y a déjà ta voiture, mais dans le petit appentis qui est derrière le garage, peut-être je pourrais mettre un peu de paille et dormir là, quoi. Et puis, on a ce magnifique verset dans Luc 15, verset 20. Le père qui tous les jours guettait le retour de son fils parce qu'il avait jamais désespéré qu'il revienne. Il se leva, s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Donc, eut les entrailles retournées. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est même pas le fils prodigue qui a fait les derniers mètres, c'est son père qui est parti en courant. Et puis vous connaissez la suite, il lui remet un anneau, comme je l'ai dit souvent, l'anneau à cette époque-là, c'était la carte de crédit avec le code, hein, parce que celui qui avait l'anneau, il signait comme ça. Hein. C'est la première chose qu'il fait. Il n'y a pas un reproche, il n'y a pas un commentaire. Évidemment que le père n'était pas pour ce qu'il avait vécu, on le sait, mais ça apparaît même pas. Pourquoi ? Le cœur ému de compassion. On n'est pas là pour discuter, alors tu l'as dépensé où, tu l'as dépensé comment, et puis j'espère que tu le regrettes, et j'espère que tu es malheureux, et je te l'avais dit, hein, au moins reconnais que j'avais raison. Non, ça c'est le jugement. Et nous sommes pas appelés à juger, nous sommes appelés à avoir du discernement, à comprendre les choses, à savoir, mais prononcer la sentence coupable, c'est pas pour nous, c'est pas notre rôle, jamais. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 4. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. En d'autres mots, ce que vous pensez de moi et les jugements que vous pouvez mettre sur moi, j'en ai rien à faire. Je ne me juge pas non plus moi-même, encore mieux, car je ne me sens coupable de rien. Eh ben, dis donc, gonflé l'apôtre Paul. Mais, ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Pour pouvoir juger, prononcer une condamnation, quelle qu'elle soit, il faudrait qu'on connaisse ce qu'on ne connaît pas, ce qui se passe dans les cœurs, les motivations profondes, les secrets que, des fois, même la personne concernée ne connaît pas. Qui peut faire ça à part Dieu ? Personne. Alors, si on n'a pas tous les éléments en main, on ne peut pas juger. Sinon, il y a vice de procédure. Il vous manque la moitié ou les trois quarts ou plus du dossier. Mais il me reste la miséricorde. Alors c'est choquant. Oui, mais alors ça veut dire que les gens font n'importe quoi et puis on les aide à réparer les conséquences. Mais si on fait ça, on va les encourager à aller dans le mal. Plaignez-vous à Dieu. C'est l'évangile. Pourquoi évangile, ça veut dire bonne nouvelle? Si la bonne nouvelle, c'est que ceux qui ont fait mal vont être punis et ceux qui ont fait bien seront récompensés. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, tout le monde le sait. La bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu est incompréhensible, il est injuste, il est violent, il est choquant par sa cause de l'œuvre de Christ. Si Christ a été condamné à notre place, nous n'avons pas à être condamnés. Évidemment que si je fais prendre de mauvaises décisions, il y aura des conséquences, c'est pas une punition. Il y a des conséquences. Si je bois trop, je peux mourir d'une cirrhose du foie, c'est pas Dieu qui me punit. C'est que mon foie n'a pas été fait pour supporter autant d'alcool, ben je vais peut-être en mourir. Mais jusqu'à la fin, la miséricorde de Dieu m'accompagnera, même si je meurs dans l'alcool. De la même façon que normalement, si le système médical était ce qu'il est, quand vous allez à l'hôpital, on devrait toujours vous soigner. Imaginez un médecin dans un hôpital qui voudrait choisir que les gens qui sont pas, qui voudrait soigner que les gens qui sont pas malades. Ce serait super comme métier. Moi, je m'occupe que des gens qui sont pas malades. Ah bien, c'est quoi votre spécialité ? Je soigne les gens qui n'ont rien. Super, très utile. Mais c'est à ça que les chrétiens ressemblent, souvent, pas toujours quand même. On veut aider que les gens qui sont bien. Ouais, mais alors s'ils sont bien, ils n'ont pas besoin qu'on les aide. Oui, mais les autres, il faut d'abord qu'ils s'aperçoivent qu'eux, il faut d'abord qu'ils expient, il faut d'abord qu'ils payent, il faut d'abord qu'ils reconnaissent. Je vais en parler un peu après aussi, mais... On parle, on pense, on aimerait, on a commencé de le faire un peu, évangéliser. Ce mot aussi aurait besoin d'être nettoyé. Si j'ai pas de compassion, l'évangélisation, c'est du prosélytisme. C'est du racolage pour un parti. C'est pas l'évangile. Lorsque Jésus a aidé des gens, c'était pas pour qu'ils le suivent, c'était pas pour qu'ils l'aiment, c'était pas pour qu'ils obéissent. C'était parce qu'il était touché par leurs besoins. La plupart des gens que Jésus a guéris ne sont pas devenus ses disciples. La plupart des gens qu'il a aidés, ils ont crié « Crucifie !» Et Dieu le savait à l'avance. Il les a quand même aidés. Il a quand même été ému de compassion. On en parlait hier soir, mais j'ai connu des mouvements où quand ils allaient évangéliser, ce n'était pas des êtres humains qu'ils allaient rencontrer, ils allaient sauver des âmes. Alors, vous avez eu comme, tu sais, on fait des croix sur la Bible, comme dans les westerns, ils faisaient des croix sur leur crosse. T'en as eu combien aujourd'hui? 5, moi 4. C'est pas des âmes, c'est des êtres humains qui ont une âme aussi, d'ailleurs, un corps, un esprit. Et que Dieu aime, quoi qu'il fasse. Évidemment qu'on aimerait qu'ils rencontrent Dieu, c'est le meilleur pour eux. Évidemment qu'on aimerait qu'ils connaissent. Il y a une vie extraordinaire à vivre avec lui pour sur cette terre et pour après. Mais si je peux aider que les gens qui vont répondre favorablement, c'est terrible. C'est pas le message de Jésus. C'est pas le cœur de Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui donne de l'oxygène aussi aux tyrans, aussi aux méchants qui font d'horribles choses. Dieu donne parce qu'il aime donner. Bien sûr, encore une fois, il y a des conséquences sur nos choix parce que nous sommes libres. C'est un autre sujet. Mais la compassion, ce sujet-là particulier, justement, n'est pas lié au jugement. La compassion est là pour guérir, pour soigner, et pour participer à la souffrance d'une certaine façon. Le mot français, compassion, vient du latin, et c'est tiré d'un mot grec qui se trouve aussi dans deux reprises dans le Nouveau Testament, qui a donné un autre mot en français. Vous allez voir, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Dans les deux passages d'Hébreu, celui que j'ai lu tout à l'heure, qui parle de Jésus qui compatit avec nous, et puis dans un deuxième passage, dans Hébreu 10, 34, le mot compassion, là, c'est plus le même, c'est plus le mot qui dit avoir les entrailles retournées, c'est le mot sympathéo qui a donné en français sympathie. Alors, dans notre langage aujourd'hui, quand on dit quelqu'un qui est sympathique, ça veut dire il est gentil. Dans le sud de la France, on dirait il est brave, hein, il est pas méchant. Le mot sympathique veut pas dire spécialement gentil, hein. C'est un mot qui est composé du préfixe avec et du mot souffrir, sympathéo, souffrir avec. C'est ça la sympathie normalement, hein, au départ, étymologiquement, souffrir avec. Et il y a une très très belle illustration dans le domaine musical. Vous savez que certains instruments à cordes ont, en plus des cordes sur lesquelles on joue, des cordes sympathiques. Alors c'est pas des cordes qui sont gentilles. Qu'est-ce que c'est que les cordes sympathiques? C'est des cordes qui sont mises dans l'instrument, qu'on ne touche pas, mais qui sont accordées d'une certaine façon pour que lorsqu'on joue certaines notes sur l'instrument qui correspondent, elles se mettent à vibrer parce qu'elles sont en sympathie avec la note qui a été jouée. Il y a notamment, si vous allez sur Internet, vous verrez, c'est très joli, on appelle ça un violon d'amour. C'est un violon qui a 12 cordes, 4 avec lesquelles on joue, et puis les autres qui sont accordées pour que, tous les demi-tons, pour que chaque note qu'on fait les fasse vibrer. Et donc ça donne un son qui est assez particulier, j'ai jamais entendu, mais je vais chercher. J'ai juste pu le voir, hein. Les cordes sympathiques qui vibrent avec, hein, en même temps. C'est ce que Jésus a vécu quand il était sur terre. Il a vu cette femme et il a vibré à l'intérieur de lui avec sa souffrance. Cette dame avait les tripes retournées parce qu'elle venait de perdre son fils et Jésus a été en sympathie avec elle. Il a aussi eu l'estomac retourné et il a fait quelque chose pour elle. Nous sommes appelés à être des gens sympathiques dans le sens étymologique. C'est pour ça que je vous ai dit de la sympathie pour mon cou, venez devant au début, hein. Puis j'ai pas me tourné de tous les côtés pour vous parler. Souffrez avec moi. Non, je souffre pas, mais ça va. Mais c'est tellement important parce que si on réfléchit honnêtement, c'est pas la première caractéristique à laquelle les gens pensent quand ils pensent aux chrétiens, quoi. Hein. Ouais, mais si je vais là-bas, on va me dire t'y es pas. C'est comme si, bon, on commence par couper tes cheveux, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de faire ci, arrête de là. Et après, viens te faire soigner chez nous. Ouais, mais si j'arrive à faire tout ça, j'ai plus besoin de venir chez vous, hein. Hein. C'est encore une fois le médecin qui vous voit arriver. Oula, il est plein de sang, il a un os qui sort, mais c'est dégoûtant. Allez vous nettoyer, puis revenez, on va vous soigner. Hein. Mais on entend ça tellement. J'étais choqué il y a pas très longtemps, hein, en entendant des chrétiens qui parlaient entre eux de choses qui étaient arrivées à des gens, effectivement, qui avaient pris de mauvaises décisions. Ben, c'est pas étonnant, c'est bien normal, hein, parce que franchement, avec la vie qu'ils ont, ils pouvaient pas leur arriver autre chose. Ouais, c'est vrai, mais bon, où est Dieu là-dedans? Il y est pas, hein, parce que Dieu était en Christ. Et puis, il était là sur la croix, en train de souffrir avec. Alain Auderset a un très très beau dessin, comme ça, c'est un poster, où on voit, la première image, on voit une grande autoroute, avec des gratte-ciels derrière, un truc, avec un grand soleil en haut, des nuages, puis il y a deux personnes en haut de cette piste, comme ça, puis qui sont en train de crier, Dieu, où tu es? Et puis, l'image d'après, on est en contre-plongée, et on voit sous cette grande piste, en bas des immeubles, une espèce de je sais pas quoi, de comment on appelle ça, de bidonville tout pourri avec de la fumée, tout sale, etc. Puis là au milieu il y a une croix plantée avec Christ sur la croix et puis Jésus d'en bas qui répond je suis là. Ça c'est la réalité. Christ n'est pas venu en jet avec une voiture à vitres blindées visiter le monde. Hein. Mon père vous salue avec les gardes du corps de vin derrière. Non, il est venu, il est né, il a vécu dans un milieu pauvre, il a été trahi, il a été battu, il a été humilié, il a souffert tout ce qu'un être humain peut souffrir physiquement et émotionnellement. Et il sait de quoi il parle. Il est en sympathie avec nous. Nos souffrances ne sont pas des choses théoriques pour lui. Et puis, on le sait tous, quand il vous arrive quelque chose de difficile, bien sûr, tout le monde peut compatir. Mais si des gens ont vécu la même chose, ils n'ont pas besoin de parler. Ils viennent, ils vous prennent la main ou le bras ou l'épaule. Vous savez, il y a les mêmes cordes qui vibrent parce que on l'a vécu. Jésus-Christ est comme ça avec nous. Il n'est pas derrière ses livres. Ah oui, l'épreuve 212B, ah, elle est terrible celle-là. Hein. Mais la 315C, elle est pas mal non plus. Hein. Non, il l'a vécu. Il sait ce que c'est. Alors, naturellement, je l'ai dit, nous ne sommes pas comme ça, personne. Donc, c'est pas la peine de culpabiliser là-dessus. Mais ça nous montre à quel point nous avons besoin de venir à Dieu. Si je reçois pas la compassion de Dieu, ben, je vais la recevoir d'où, j'en sais rien. Hein. Mais je l'ai pas. Et puis, l'autre point, c'est je dois prendre le risque de m'exposer. Je crois qu'un de ces prochains dimanches, on va, entre guillemets, officiellement prier pour l'équipe qui va aller au Togo avec Jean-Jacques. Ils sont 5 ou 6 ou plus, même 8, je crois, à partir là-bas. Moi, je suis bon, un peu jaloux de ne pas y aller, c'est vrai. Mais je suis vraiment content pour ceux qui y vont. Ils vont être changés, ils vont être transformés. Pourquoi ? Parce que c'est bien d'entendre parler d'un pays, de ses enfants, de ci, de ça. Maintenant, on y va et on les voit. Et là, on a le cœur qui est retourné. Les tripes à l'envers. Et bien sûr, ça fait peur. Hein. Moi, je crois que la plupart du temps, quand on n'a pas de compassion, c'est pas juste de l'égoïsme. Bah, il y en a une bonne dose, on en a tous. Mais c'est pas ça le plus gros problème. On a peur. On a peur. Parce que si j'accepte de ressentir de la compassion pour quelqu'un, je vais être responsable. Je vais être engagé. Hein. Rappelez-vous Saint-Exupéry, on est pour toujours responsable de ce qu'on a apprivoisé. Donc, si je vois pas, si je sais pas, bah, je souffre pas et je suis pas responsable. Et c'est une des raisons pour lesquelles on vit tellement calfeutré. Je veux pas savoir si mon voisin a des problèmes. Je veux qu'il me dise bonjour quand je sors, parce que ça c'est poli. Mais je veux surtout pas qu'il me raconte sa vie. Et je veux pas lui dire la mienne. Hein. Je veux pas être responsable de son malheur. Je veux pas après me sentir retourné dans mes entrailles. Donc, je vis tout seul. Mais je suis misérable, j'ai pas été créé pour ça. Et puis moi-même, quand je suis dans le besoin, y a rien qui vibre à côté, je suis seul. On a besoin les uns des autres. On a besoin de compatir les uns aux autres, d'être en sympathie. En langage psychologique moderne, on dirait avoir de l'empathie aussi, hein, qui veut dire littéralement être dans les sentiments de l'autre. Hein, en, dedans, empathie, pathéo, les émotions, les sentiments. C'est tellement important, que ce soit dans nos vies de couple, dans nos relations avec nos voisins, dans notre vie d'église, avec tout le monde, partout. Ça peut s'appliquer absolument partout. Mais comme on l'a pas naturellement, ben, il faut aller la chercher là où ça se trouve. Ça se trouve où ? Dans le cœur de Dieu uniquement. Donc la véritable compassion est toujours un produit d'importation. C'est pas produit dans le cœur de l'homme. Par contre, dans le cœur de Dieu, vous pouvez puiser, il y en a, il y en aura toujours. C'est produit en permanence. Chez lui, c'est naturel, on pourrait dire. Alors, c'est pour ça qu'on doit s'approcher de lui. Dimanche dernier, je parlais de marcher à la voix, écouter la voix de Dieu, puis se faire conduire par sa voix. C'est lié, toutes ces choses-là. Si je connais la voix de Dieu, si je sais où le rencontrer, si j'accepte aussi de rencontrer le besoin, de plus m'enfermer entre mes quatre murs, mais d'aller vers l'autre, d'ouvrir les yeux, de voir... et puis de comprendre que le jugement, c'est pas moi. Je suis pas juge, je suis pas un tribunal. Je peux pas comprendre. Mais par contre, je peux être quelqu'un qui facilite les choses, qui trouve des solutions, parce que j'ai été touché au fond de moi. Et parce que j'aime, moi, quand je suis dans cette situation, qu'on ait de la compassion pour moi aussi. Et si on peut grandir dans ces choses-là, alors ça va être extraordinaire comme... ça va se voir, parce qu'on vit dans un monde sans compassion, puis dans un monde méchant, violent, agressif, tout ce que vous voulez, à un point terrifiant. Et bien sûr, on ne peut pas porter la misère du monde sur notre dos, mais Jésus nous a demandé de nous occuper seulement de notre prochain. C'est qui mon prochain ? C'est celui que Dieu met sur ma route. Alors, il y a effectivement des millions d'autres malheureux ailleurs, mais celui que Dieu met devant moi, est-ce que je vais faire comme les gens religieux de l'époque de Jésus, changer de trottoir ? Oh ben c'est pas compliqué, j'ai vu qui c'était, je réponds pas au téléphone, j'ai vu à travers la porte, oh lui j'ouvre pas, ah non il sera là, j'y vais pas, hein, ça s'est passé sur l'autre trottoir. Ou est-ce que je vais accepter, Dieu a mis cette personne sur ma route et je vais pas changer de trottoir. Ah, effectivement, il y en a des milliers d'autres et je peux rien faire pour eux, mais pour celui-là ça va faire une différence. et puis Dieu s'occupera des autres. Donc, c'est pas pour prendre un fardeau sur nos épaules qu'on ne pourrait pas porter, mais accepter le prochain que Dieu nous confie, parce qu'il est là sur la route, comme tu es là, on va dire, au mauvais moment ou au bon moment, et on va pouvoir recevoir de Dieu une provision pour faire ça. Alors, Seigneur, nous voulons te remettre notre incapacité à avoir naturellement de la compassion pour les autres, qui sont différents de nous, qui sont pas comme nous, que nous ne comprenons pas. Mais tu peux, toi, surnaturellement remplir nos cœurs d'amour, de miséricorde, de grâce, de compassion. Garde-nous du jugement de vouloir faire expier les autres, de vouloir leur faire payer leurs fautes. Que nous puissions être des facilitateurs, des gens qui communiquent ton amour et ta grâce, parce que c'est ce que tu es venu nous communiquer, Seigneur. Et nous avons besoin de toi pour le recevoir pour nous d'abord, pour le comprendre, pour le vivre et pour le partager. Alors, conduis-nous dans ces choses-là.